Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Nous allons maintenant rejoindre l'auditorium de la Maison de la Radio où nous attendent plus de 1000 enfants et l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le chef d'orchestre Ton Koopman pour une clé de l'orchestre consacrée à la 25e symphonie de Mozart. Vous connaissez la 25e symphonie ? En sol mineur, composée par Mozart à l'âge de 17 ans. Elle est formidable, mais je suis sûr que le thème va vous dire quelque chose. Parce que ce thème, c'est celui qui ouvre le célèbre film Amadeus de Milos Forman. Ah, je vois à vos sourires que vous avez reconnu, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis 25e symphonie, vous dites oui, ça doit être un peu après la 24e, sans doute avant la 26e, mais de quoi s'agit-il ? Là, vous avez reconnu le thème est effectivement très connu, mais il y a autre chose qui est très frappant dans ce thème, c'est que c'est un thème très théâtral, qui vous saisit immédiatement, et d'ailleurs, Ton, tu ne voudrais pas le faire entendre une fois de plus ? Je dis que c'est théâtral, mais il faut encore que je le prouve. Qu'est-ce qu'il y a de théâtral et qu'est-ce qui fait que ce thème est si saisissant ? Pourquoi ce début de symphonie nous fait pénétrer immédiatement au cœur de la musique ? Eh bien, déjà, parce qu'il est en deux parties. Et deux parties qui forment un contraste très intéressant. La première partie, ce sont ces quatre notes. Mais quatre notes agitées à l'intérieur par des syncopes. Les syncopes, c'est cette manière de marquer le temps en décalage avec la pulsation principale. Et ça donne tout de suite un côté haletant. Elles sont importantes, ces quatre notes. Et elles sont même si importantes que ça serait bien que vous les chantiez. Comme ça, vous les aurez bien en mémoire. Vous les chantez avec moi ? On essaye ?
Mais avec quelles paroles ?
Ah oui, il faut des paroles pour chanter. Ton a raison. Je ne sais pas. Amadeus. Ça marche très bien, Amadeus. Essayons. Alors ça, c'est la première partie du thème. Et tout de suite après, il y a cet arpège qui s'élance de manière étincelante au violon. Vous avez remarqué les corps à contretemps. Accent comme ça, qui redonne encore de la vigueur. Tiens, je vous parlais tout à l'heure d'Amadeus, mais quelques années après, il y a eu un film très célèbre qui vantait les mérites d'une célèbre marque de pâte, et on y voyait une sorte de fantomas à Venise, déguisé tout en noir, qui volait la mallette d'une dame très bien mise qui se mettait à hurler au voleur, au voleur. En fait, on s'apercevait après que la mallette précieuse qui avait été volée ne comprenait pas des colliers de diamants, comme dans n'importe quel film policier, mais une collection complète de ces fameuses pâtes. On entendait même un petit bout de la Tosca en même temps. Nous sommes au cœur de quelque chose qui nous fait presque plus penser à du théâtre, à de l'opéra, qu'à une symphonie. Je vous ai dit tout à l'heure que le thème de quatre notes était très important, et vous allez voir que tout au long du mouvement, on va retrouver des éléments de ce thème, mais à chaque fois transformés. On va se le remettre en mémoire, et je vais tout de suite vous montrer comment il est transformé par Mozart. Les cordes et Judith et Alexandre, les deux hautbois qui ont joué le thème, et c'était fort. c'était plein d'énergie. Maintenant, on retrouve ce même thème, ces mêmes quatre notes que vous venez très bien de chanter, mais il n'y a plus que le hautbois solo, Alexandre, qui le joue, et il est accompagné doucement par les autres cordes. On dirait qu'il se plaint. Mais on ne va pas rester à s'apitoyer, la larme à l'œil, comme ça. Tout de suite après, nouveau contraste avec un motif héroïque. Alors moi, j'aime bien qu'on aille voir toujours dans la musique pourquoi ça donne tel caractère. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du caractère théâtral et on a vu pourquoi, à cause du contraste entre les deux parties du premier thème. Là, je vous dis que le motif est héroïque, c'est certain, mais pourquoi ? Eh bien déjà, l'accompagnement. Je ne sais pas si vous avez remarqué les seconds violons et les altos qui font un trémolo. On peut avoir le trémolo ? Cet aller-retour rapide de l'archet fait trembler l'air en quelque sorte. Et puis, il y a aussi le fait que le motif est en canon. Les violons font. Et les basses répondent. De nouveau les violons. De nouveau les basses. Et cette énergie est toujours renouvelée puisqu'à peine un thème a commencé que hop, une autre partie de l'orchestre fait le thème. Écoutez ce canon entre les violons et les basses. Depuis le départ, j'insiste sur ce caractère théâtral de ce premier mouvement de symphonie. Il faut dire qu'à l'époque, il y a un grand débat. Il y a un débat entre les gens qui sont les tenants de ce que l'on appelle le style galant et les tenants de ce qu'on appelle le Sturm und Drang. Ce qui veut dire en français « tempête et passion ». Le style galant, c'est né avec les fils de Jean-Sébastien Bach, et très souvent, on associe Mozart à ce style galant, un style plus aimable, avec des mélodies. Par exemple, ou très galant aussi. On est bien, on est entre soi. On se fait la conversation, on est à la cour. Tandis que dans la théorie du Sturm und Drang, on dit « ça suffit, on n'est pas là uniquement pour divertir les auditeurs, il faut les saisir ». Et on les saisit grâce à des silences soudains, à des contrastes de nuances, à l'utilisation du mode mineur. Mais Mozart, il est un peu entre les deux. Il aime bien le style galant et il est influencé par le Sturm und Drang. Voici pourquoi, maintenant, nous allons écouter quelque chose qui me semble vraiment typique du style galant, un joli thème que j'appelle la Duchesse. Et pour terminer cette grande première partie du mouvement, il y a ce qu'en musique on appelle une coda. Une coda, c'est le mot italien pour dire une fin. Une fin qui est très dynamique, avec des gammes fusées qui partent des violons et qui concluent magnifiquement cette première partie. Fin de la première partie. Alors là, il faut quand même que je vous dise comment s'est organisé ordinairement un premier mouvement de symphonie. C'est très simple, c'est en trois parties. Il y a d'abord la première partie. Et puis après, il y a la deuxième partie. Et enfin, il y a... Eh ben non. Non, après, il y a le retour de la première partie. Première partie, seconde partie, retour de la première partie. La première partie On vient de l'examiner ensemble, on appelle ça parfois l'exposition, c'est-à-dire qu'on prend connaissance des thèmes principaux. Nous avons eu le thème en deux parties du début, avec les quatre notes que vous avez chantées, suivies des arpèges montants, et puis nous avons eu aussi ce motif que j'ai appelé le motif héroïque, après nous avons eu la duchesse et une petite coda pour terminer cette première partie. Maintenant, nous entrons dans la seconde partie. La seconde partie, c'est en quelque sorte le moment de l'action. Et là, nous retrouvons l'esprit du Sturm und Drang. Écoutez cette magnifique bataille qui va s'engager entre les violons et les basses qui font entendre un nouveau motif. Pam, pam, pim, pam, 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 pim, pam, 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 pam. C'est la bataille de l'orchestre. J'ai l'impression qu'il y a une bataille entre les violons d'un côté et les basses de l'autre qui, une fois de plus, sont en canon. Peut-être on peut le réécouter pour ceux qui n'avaient pas fait attention à ce canon entre les violons et les basses. Et comme dans toute bataille, il y a des blessés. Et j'ai l'impression que là, ce sont les violons qui sont un peu blessés. Alors, ils se plaignent, ils gémissent doucement. À la fin de cette seconde partie, il y a donc le retour de la première partie. Donc nous allons réécouter le thème principal, le motif héroïque, la duchesse va revenir, mais à la toute fin, il y a une chose qui change, c'est la coda. Tout à l'heure, la coda, après la première partie, après l'exposition, était en majeur. Là, nous avons une coda en mineur, et elle est très surprenante, cette coda. On l'écoute d'abord et on en parle après. Déjà, ce qui est surprenant, c'est cette fin dans la douceur, avec ce nouveau petit motif rythmique. Pam, pam, padam, pam, 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 pam. Moi, je le prends comme une sorte d'ironie, comme si Mozart nous disait, enfin, c'est pas si grave que ça, tout ça. Mais ce qu'il y a vraiment d'étonnant, c'est la reprise de nos fameuses quatre notes Amadeus en triple canon. Oui, il y a eu d'abord les violons, et puis les basses, et enfin les hautbois et les cors. Le tout avec l'agitation interne des syncopes. Écoutons le triple canon, nous réécoutons la coda. Violon, basse, hautbois et cors. Et maintenant, Ton, je pense que notre public en sait assez et que nous pouvons écouter d'un bout à l'autre le premier mouvement de cette symphonie. Je vous rappelle qu'il y aura la première partie avec son thème principal, les quatre notes Amadeus et l'arpège qui s'élance, le motif héroïque, le thème de la duchesse et la coda avec les traits brillants des violons qui clôt cette première partie, l'exposition. Puis nous aurons la bataille et ses blessés. Ça, c'est la seconde partie. Et enfin, nous allons réécouter la première partie, mais avec cette coda étonnante et son triple canon. Premier mouvement de la 25e symphonie. Cette énergie, cette tension, ces multiples canons, le second mouvement va nous faire beaucoup de bien. Vous allez voir, il est paisible, il est tendre, il est agréable. On entre dans ce mouvement comme on se mettrait dans un bon bain chaud. Début du second mouvement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un petit motif de basson qui est vraiment délicieux. Parce que chez Mozart, la plupart du temps, les bassons jouent à l'unisson des violoncelles et des contrebasses. Or là, ils ont un motif à eux, un motif que je vous propose d'écouter. C'est très doux, ce sont des jolies tierces. Mais ce motif en tierce des bassons, est en fait en canon avec le motif des violons, un joli canon, un canon amoureux entre les violons de l'orchestre et les deux bassons. Alors peut-être que vous allez penser, puisque je vous parle un peu d'opéra, de théâtre depuis le début de la symphonie, que nous en sommes loin avec ce doux mouvement lent. Eh bien, je n'en suis pas si sûr, parce que moi, dans ce petit motif de trois notes, j'entends comme un air d'opéra, vous voyez ? Je vois que tout le monde est conquis par ma voix merveilleuse. Alors maintenant, peut-être, l'orchestre va rejouer ce thème et on va essayer d'imaginer des paroles ensemble. D'abord, la musique sans les paroles. Écoute, c'est tellement tendre que moi je pense que comme parole, on pourrait essayer avec le public de faire tout simplement « Je t'aime, je t'aime ». On essaye ? Alors maintenant que nous nous sommes aimés avec plaisir, je voudrais mettre l'accent sur quelque chose qui est un peu une spécialité de la musique classique, le développement. Vous savez, dans les musiques populaires, par exemple dans les chansons, quand un thème a été donné, eh bien voilà, on peut le répéter, on peut alterner entre couplet et refrain, mais on ne le développe pas. En musique classique, nous aimons bien développer. Et nous aimons bien, pour développer, moduler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce motif que nous venons d'entendre en mi bémol majeur, nous pouvons le changer de tonalité, le mettre en la bémol majeur ou en do majeur, ré mineur. Do mineur, etc. Un peu plus haut, un peu plus bas. Et comme ça, on peut, avec un thème, faire progresser la musique. C'est exactement ce qui se passe dans le passage qui suit. Écoutez et prenez plaisir à entendre ce thème modulé doucement sur l'appui harmonique des basses et vous reconnaîtrez votre jeu thème, mais il va changer de tonalité. Ces moments-là, parfois, ne sont pas faciles à entendre pour les gens qui n'écoutent pas régulièrement de la musique classique. Parce que d'un seul coup, on se dit, mais que se passe-t-il? Eh bien, nous voyageons. Et vous avez entendu ce thème qui a voyagé grâce aux basses. Un peu plus haut. Encore plus haut. Peut-être on peut écouter encore une fois cet exemple. Tendresse, douceur des cordes avec les sourdines. Modulation, nous écoutons maintenant le second mouvement de la 25e symphonie de Mozart. Et maintenant, le troisième mouvement de la 25e symphonie. Alors, le troisième mouvement, traditionnellement, dans la symphonie classique, c'est un menuet. Il paraît logique, après le mouvement lent, d'avoir plutôt un mouvement de divertissement. On a commencé à danser le menuet bien longtemps avant, et puis un jour, Lully s'est dit « Tiens, je vais l'introduire dans la musique savante », et petit à petit, les musiciens classiques ont pris l'habitude d'écrire des menuets. Mais au moment où Mozart et Haydn écrivent des menuets dans leur symphonie, en général le troisième mouvement, parfois le second mouvement, on commence à danser la valse. Mais il faudra entendre un certain temps, au moins un demi-siècle, pour que les musiciens classiques, à leur tour, écrivent des valses. Mais revenons à ce menuet qui n'est pas banal, parce que vous allez l'entendre, eh bien on ne dirait pas tout à fait un menuet. Normalement, c'est à trois temps un menuet. La valse est à trois temps, le menuet est à trois temps. Mais on va essayer de dire 1, 2, 3 en même temps et vous allez voir, ça ne va pas être si facile. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et peut-être c'est parce que tu vas trop vite.
On peut faire beaucoup plus vite.
Encore plus vite.
Ah oui, oui. C'est un peu vite pour la vente, peut-être. Hein?
Oui, non, c'est trop vite. Qu'est-ce que ça donnerait si tu le faisais beaucoup plus lent? Parce que moi, je préfère plus lent le menuet. Moi, je préfère parce que là, ça commence à être proche d'une valse, par exemple. Tu sais, à l'époque, on dansait le menuet à certains tempos, mais alors une fois que c'est devenu une pièce de musique symphonique, les compositeurs pouvaient imaginer des menuets rapides, des menuets lents. De toute façon, on ne dansait pas sur un menuet de symphonie. Mais ce menuet, non seulement n'est pas vraiment fait pour être dansé, mais en plus, nous allons retrouver le caractère théâtral qui marque, vous l'avez compris, les quatre mouvements de notre symphonie. Et ce caractère théâtral, il est obtenu par des contrastes de nuances. Écoutez la seconde partie du menuet, on passe toujours de la nuance forte avec tout l'orchestre à la nuance piano avec uniquement les cordes de l'orchestre.
Mais de nouveau, un peu plus vite, hein?
Oui, d'accord, un peu plus vite, j'ai compris. Mais vous avez préféré la version lente, n'est-ce pas, le public? Oui, ils ont préféré.
Oh, tu as payé.
Oui, c'est ça, j'ai payé tout le public avant. Alors, essayons, le contraste de nuances, fort. Doux. Fort. Doux. Fort. Doux. Fort. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. À chaque fois que vous verrez sur un programme menuet, ou que vous entendrez à la radio, nous écoutons maintenant le menuet de telle symphonie que Schell 3487, etc., etc., protestez. Dites, ce n'est pas vrai, il n'y a pas un menuet, il y a deux menuets. Réclamez qu'on annonce les deux menuets, car il y a toujours deux menuets. Et le second menuet est très important. C'est un menuet qui forme contraste avec le premier. Si le premier menuet est tranquille, le deuxième est plus énergique. Si le premier est dans le mode majeur, le second est dans le mode mineur et inversement. Là, nous avions un menuet avec plein d'énergie, un menuet presque un peu en colère. Et là, le second menuet est tout différent. Il est paisible, il est printanier. Et pourquoi il nous donne l'impression d'être tranquille, d'être si paisible? Parce qu'il est donc dans le mode majeur, alors que le menuet principal était dans le mode mineur. Mais je veux bien que vous me disiez, alors c'est quoi la différence entre le majeur et le mineur? Oui, dis-moi toi. D'accord. Alors, si on écoute les enfants, tu vois, ils disent que le majeur, c'est plus gai, c'est plus joyeux, et que le mineur, c'est plus mélancolique. C'est vrai, on peut dire que c'est vrai, oui. Mais pourquoi ? C'est une question d'échelle. Vous connaissez la gamme, oui, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, bien sûr. Eh bien, quand on fait une gamme, alors ici nous sommes en sol, le grand problème, c'est la troisième note. 1, 2, 3. Si la troisième note est majeure, nous sommes dans le mode majeur. Mais si la troisième note est un peu plus basse, elle a un bémol, hein, vous savez comme on dit, mets un bémol à tes prétentions. Le bémol, il faut baisser un peu. Au lieu de si bécart, si bémol. La tierce est plus petite. Et je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais tout de suite, on a une impression plus douce, plus triste, plus mélancolique. Donc, mineur, plus mélancolique, majeur, plus joyeux, mais surtout la différence entre les deux tierces. Tenez, ce que vient de jouer l'orchestre était en majeur, on peut l'avoir encore une fois, le début du menuet en majeur, le second menuet, bien sûr. Eh bien, de mon piano, si je le joue en mineur, ça va donner... Et tout de suite, c'est plus mélancolique. On peut faire l'expérience inverse. Vous savez, il y a deux symphonies de Mozart en mineur, toutes les deux en sol mineur. Celle dont nous nous occupons aujourd'hui, la 25e, mais aussi la très célèbre 40e symphonie. Je la mets dans le mode majeur et tout de suite, c'est plus joyeux. Voilà pour le majeur et le mineur. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui fait que ce second menuet est en contraste avec le premier. C'est qu'il est confié au seul vent de l'orchestre. Un magnifique sextuor à vent. Deux cors, deux bassons, deux hautbois. Dans le premier menuet, l'orchestre était en mineur, donc un petit peu inquiet. Et j'ai l'impression que maintenant, les vents se moquent de tous ces gens qui ont l'air inquiets. Ils disent « Mais non, la vie est belle, il fait beau, amusons-nous. » Et que même, ils rient un petit peu. Il y a un passage, pour moi, on dirait un éclat de rire. Maintenant, je pense que vous en savez assez. Nous allons pouvoir écouter d'un bout à l'autre le troisième mouvement. Je vous en rappelle la structure. Elle ressemble finalement à celle du premier mouvement. Première partie, c'est le menuet que j'appelle le menuet un peu fâché, un peu en colère, le menuet en mineur. Et puis après, deuxième partie, c'est notre menuet en majeur, printanier, pastoral, confié au seul sextuor à vent. Et comme vous le savez, il y a maintenant... Ils n'ont pas retenu, hein. Le retour de la première partie. Nous aurons le retour du premier menuet en mineur pour conclure ce troisième mouvement. Troisième mouvement de la 25e symphonie. Thank you. la 25e symphonie par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Ton Koopman. Et maintenant, nous en arrivons au dernier mouvement, au quatrième mouvement de notre 25e symphonie, le quatrième mouvement qu'on appelle aussi le final, puisque c'est le dernier mouvement. Et là, nous retrouvons le mystère, l'énergie théâtrale du premier mouvement. Écoutez ce début dans la nuance douce, à l'unisson, les cordes et les deux bassons. Vous remarquez qu'une fois de plus, Mozart, pour bien nous saisir, utilise la technique de l'unisson. Mais oui, souvenez-vous, dans le premier mouvement, nous avions d'abord quatre notes à l'unisson. Amadeus, pas d'accompagnement. Juste les quatre notes du thème. Dans le menuet, également un unisson. Et maintenant, un dernier unisson dans la nuance douce, mystérieuse. Et ça, c'est quelque chose de formidable. On sent que quelque chose va éclater. Mais quoi ? On peut encore avoir l'unisson ? Le tutti d'orchestre éclate. Le thème de l'aigu passe à la basse. Il est accompagné par les syncopes du reste de l'orchestre. Ce qui est très théâtral, c'est évidemment l'enchaînement de ces deux énergies. Là, nous les avons écoutées l'une après l'autre. Je vous propose de les écouter dans leur enchaînement. Et comme toujours, maintenant, un petit contraste, le moment consacré au style galant, avec ce motif, moi je dirais que c'est le motif de la marquise. Pourquoi tu n'aimes pas la marquise ?
Chez nous, il y a un roi, il y a une reine, et des princes aussi.
Ah, il y a aussi des princes. Bon, ah, ouais. Écoute, ça tombe bien parce que le motif suivant, je trouve qu'on pourrait l'appeler le petit prince. Tiens, fais-nous écouter maintenant le petit prince. Peut-être vous pourriez le chanter avec moi. Le petit prince, le petit prince, le petit prince. Il va être content comme ça tonne. On essaye peut-être d'abord vous. 1, 2, 1. Le petit prince, le petit prince, le petit prince.
Je donne, peut-être c'est meilleur.
Oui, avec l'orchestre.
Yes.
On plaisante, mais le fait de mettre des paroles, je trouve que ce n'est pas seulement pour s'amuser. D'abord, parce que Mozart est un compositeur d'opéra et il adore évidemment cet alliage des mots et des mélodies. Mais aussi parce que ça permet de bien comprendre le fait que ce qui est génial chez Mozart, c'est que chaque personnage qui arrive, car un thème c'est comme un personnage, vous êtes d'accord, eh bien il possède son petit noyau rythmique. Dans le premier mouvement, ce qui nous a frappé dans le premier thème, c'est ya pa 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 ta ga da, ya pa 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 ta ga da ga da. J'ai même pas besoin de faire les notes, il suffit que je fasse le rythme ya ta 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 ga da ga da, ya ta 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 ga da ga da, et vous le reconnaissez. Souvenez-vous aussi de ce qu'on avait appelé la duchesse. Tiam, papa, tiam, papa, tiam, papa, taratita, tiam, papa, tiam, papa, tiam. Et dans le mouvement lent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Là, avec le thème du petit prince, nous avons eu un autre noyau rythmique sans cesse répété. Papa, 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 papa. Et nous en arrivons justement à la partie centrale, car le dernier mouvement de la symphonie est construit comme le premier. Nous avons d'abord une première partie, l'exposition, nous avons entendu le premier thème, la marquise, et après le petit prince. Maintenant, nous arrivons à la partie centrale, qui a toujours ce caractère un peu de bataille. Et de nouveau, vous allez retrouver un motif rythmique bien caractéristique, suivi d'un autre motif rythmique. Je vous laisse les découvrir. Alors donc, le premier motif, il était au basse. Pam tagadam 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 tagadam. Et quand Mozart en a assez, il introduit un nouveau motif rythmique. Pam pilam pam pilam pam pilam pam pilam. Les deux s'enchaînent, nous réécoutons la partie centrale du final. La seconde partie est terminée, et vous le savez, nous devons écouter le retour de la première partie. Ça y est, ils ont bien retenu, mais ça, c'est pas la peine que je vous l'explique, parce que ça se passe exactement comme la première partie, avec la même succession de thèmes. En tout cas, moi, ce qui me frappe vraiment dans cette symphonie, c'est, je vous ai parlé de son esprit de théâtre, de son esprit d'opéra, comme si c'était un opéra sans parole, une symphonie théâtrale. D'ailleurs, Mozart adorait l'opéra. Il a composé presque une vingtaine d'opéras, dont les plus connus sont Don Juan, La Flûte Enchantée, Les Noces de Figaro. Et puis, on a dit aussi que c'était une symphonie romantique. Mais moi, je ne crois pas. Parce que le romantisme, c'est l'expression des sentiments intimes, des sentiments personnels. Et j'ai l'impression qu'il y a des moments de plainte, il y a des moments de tendresse, il y a des moments de fougue, de colère peut-être même, mais qu'il ne s'agit pas des sentiments de Mozart personnellement. Il ne vient pas se plaindre, il vient nous montrer le caractère de chaque personnage, comme au théâtre, sauf que dans une symphonie, un personnage, c'est un thème. Au fond, chaque thème de cette symphonie, vous pouvez considérer que c'est comme un personnage au théâtre ou au cinéma. Maintenant, nous allons écouter d'un bout à l'autre le final, avec les trois grandes parties. Nous allons retrouver les thèmes pendant la première partie, et puis ce moment d'action, de bataille que représente la seconde partie, et puis le retour de tous les thèmes pour finir ce magnifique mouvement, le final de la 25e symphonie par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Ton Kopman. Thank you.
C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Hein Van Veld et préparée avec Théo Friconeau. À la semaine prochaine.